Bonsoir Raphaël Glucksmann.
Bonsoir.
Merci d'être venu nous voir à Bordeaux.
Ben, merci à vous et merci surtout à vous d'être nombreux. Et j'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Je vous jure que c'était la dernière blague de que j'allais faire.
Votre ouvrage s'intitule « Les enfants du vide ». La première question que j'ai envie de vous poser concerne ce vide. Ça m'a longtemps préoccupé, ce vide. Le vide, de quoi précisément? Dans votre livre, il y a beaucoup de pistes, mais si vous deviez résumer ce vide, qu'est-ce que vous en diriez, en quelques mots?
Le vide de structure collective et d'horizon collectif. C'est le lot d'une génération qui est née après la grande crise des idéologies, après la crise aussi des structures collectives traditionnelles, que ce soit les églises, les syndicats, les partis politiques traditionnels. Et en réalité, mes parents sont nés dans un monde qui était saturé de dogmes, de structures verticales, qui était saturé de sens. Et donc, tout le sens de leur existence pour vivre libre et penser de manière autonome, ça a été de briser des chaînes et de s'émanciper de ces structures et de ces idéologies. Mais moi, je nais dans une situation complètement opposée, inverse. Mon problème, ce n'est pas le trop-plein idéologique, ce n'est pas le trop-plein d'institutions ou de structures, c'est l'antithèse, c'est-à-dire l'absence. Et donc, au lieu de briser des chaînes, le cheminement que je dois accomplir, c'est comment on retisse des liens, en fait, dans ce vide. Et je pense que la crise actuelle des démocraties occidentales s'explique largement par ce vide-là, par le sentiment de solitude qui a gagné l'individu dans ces sociétés. Et d'ailleurs, le livre part, mais peut-être j'anticipe
je vous en prie.
Des questions. Le livre part d'une conversation en fait, que j'ai eue avec un retraité de la sidérurgie en Lorraine et qui vient me voir après une conférence en me disant qu'il a un immense problème, c'est qu'il ne comprend plus ses fils et que ses fils, qui sont plus riches que lui ne l'était à leur âge, ont plus de biens matériels que lui n'en avait. Eh bien, ses fils ont peur de tout, du monde, de l'avenir, des Arabes, de l'Europe, et vote Front National. Et il me demande qu'est-ce que j'en pense. Enfin, est-ce que j'ai une réponse à ces questions? Est-ce que j'ai une explication? Évidemment, j'en ai pas. Et comme j'ai fait des études de philosophie, j'ai appris qu'il fallait répondre à toute question par une autre question, ce qui permet de s'en sortir. Donc je lui pose des questions. Et c'est lui qui, est, en fait, à la fin, eh ben, ouvre une piste que j'ai essayé de suivre ensuite. Et il dit, ils ont plus de biens matériels, ils sont plus riches que moi je n'étais à l'époque, même si ce ne sont pas des bourgeois du tout, mais ils sont surtout infiniment plus seuls que je ne l'étais. Et c'est de cette solitude, en fait, dont j'essaye de partir pour comprendre cette crise, parce qu'on est vraiment dans une crise systémique, c'est pas une crise conjoncturelle. Cette crise des démocraties libérales est une crise qui va de la frontière est de la Pologne à la côte ouest des États-Unis. Donc ça s'explique pas simplement par la situation spécifique de chacun de nos pays. Il y a quelque chose de plus profond que ça dans le moment qu'on est en train de vivre. Et à mon avis, en partant de cette solitude, on comprend cette crise et on ne la limite pas à un seul facteur. On comprend que c'est une crise de fond, quasi une crise philosophique ou une crise civilisationnelle.
Alors, cette solitude, vous l'appelez aussi liberté selon l'endroit où on se trouve, selon les moyens qu'on a, intellectuels, culturels.
Financiers aussi.
Financiers.
Oui. C'est-à-dire que l'immense paradoxe, c'est qu'en fait, moi-même, vu ma situation sociale, cette société de solitude, elle a énormément de choses à m'offrir. Quand on habite le 10e arrondissement de Paris, finalement, on peut tout à fait vivre sa vie sans d'avoir besoin d'appartenir à une structure collective, le fait de ne pas avoir d'église, de ne pas avoir de syndicat, de ne pas avoir de parti, c'est potentiellement une liberté. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de comprendre que ce qui, pour une partie de la société, peut être vécu comme une liberté, peut être vécu comme une servitude par une autre partie de la société. Et finalement, cette émancipation des individus, qui a été la grande quête de nos sociétés pendant les 40 dernières années, cette émancipation de l'individu, eh bien, elle renforce les tendances centrifuges, c'est-à-dire l'éclatement de la société et finalement le gouffre qui sépare les classes sociales. Et on a eu raison de s'émanciper de la religion marxiste-léniniste, évidemment, mais on a eu tort, en fait, de décréter que l'échec du communisme, c'était l'invalidation de l'existence de classes sociales. Non, il y a des classes sociales. Et ce qui veut dire émancipation pour certains peut vouloir dire servitude pour d'autres. Et donc, comment on fait, en fait, pour interroger notre propre logiciel quand on, en fait, quand on écrit un livre, on n'est pas dans une position d'écrire un tweet ou un post Facebook. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous voulez défendre vos principes. Vous voulez empêcher les principes adverses de conquérir encore plus de terrain. Donc vous êtes dans l'assertion, vous êtes dans l'affirmation. Quand vous écrivez un livre, vous essayez de vous interroger, en fait. Et c'est le temps, justement, du doute et d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, en fait, dans votre propre logiciel de pensée. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'interroger ce qui, dans ma propre pensée, dans ce que je croyais naturel, eh bien, a contribué aussi à la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire un livre qui entend proposer des solutions ou des idées que je revendique être progressiste ou de gauche, enfin, peu importe le mot qu'on utilise, mais sans dresser de liste d'ennemis réactionnaires à abattre, parce que trop souvent, je pense que la pensée de gauche a cru pouvoir trouver une preuve qu'elle existait dans le simple fait de dénoncer un adversaire idéologique. Et donc, de commencer, en fait, par m'interroger sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon propre logiciel de pensée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'était un livre qui était plus difficile à écrire pour moi que les précédents, parce que, finalement, les précédents étaient la continuité de ce en quoi j'ai toujours cru. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait une France ouverte, j'ai toujours trouvé qu'il fallait lutter contre la tendance au repli, au refermement. Mais là, j'ai essayé de me poser sérieusement la question, pourquoi Salvini, ça marche? Pourquoi Trump, ça marche? Pourquoi Bolsonaro, ça marche? Alors, c'était pas Bolsonaro au moment de l'écriture du livre, mais pourquoi il y a comme ça la moitié d'un village dans le sud de l'Italie qui va se presser sur la place publique pour juste écouter ou toucher Matteo Salvini? Et s'interroger sérieusement sur les raisons du succès des leaders d'extrême droite et de la pensée nationaliste ou xénophobe, eh bien, ça nous conduit à remettre en cause plein de choses qu'on pensait acquises dans notre propre pensée. Donc, c'est pas toujours plaisant à faire ou à lire, je sais pas. Mais prendre au sérieux, en fait, cette crise, ça suppose de s'inclure aussi dans cette remise en cause. Généralement, les gens qui vous expliquent la crise de la social-démocratie européenne ou de la gauche, ils vous disent, bah, en fait, en gros, la gauche est en crise parce qu'elle n'a pas écouté ce que je lui disais de faire pendant 15 ans. Moi, je dis, malheureusement, moi-même, j'ai contribué à cet échec et à cette impasse.
Et alors, pourquoi, par exemple, en France, les partis frontistes n'ont pas réussi à dépasser les 20%? Qu'est-ce qui a sauvé la France, finalement?
Ils les ont quand même dépassés.
Oui.
Parce que je vous signale que malgré une prestation mémorable au débat de l'entre-deux-tours, elle a fait plus que 20%, Marine Le Pen.
Plus que 20%, d'accord. En attendant...
ils n'ont pas pris le pouvoir, quoi. Mais déjà, ils sont quand même assez hauts. Et on peut noter que, en réalité, leurs idées sont plus populaires que l'incarnation de ces idées. C'est-à-dire que si Marine Le Pen réussit le débat d'entre-deux-tours, elle serait encore plus haut qu'elle ne l'a été. Non, non, donc je ne pense pas que nous soyons immunisés du tout. Je pense que la menace est réelle et que surtout, les idées sont très ancrées. Je crois qu'on a en plus un pays voisin qui est l'Italie. Et moi, j'essaye toujours de dire aux gens qui pensaient que Berlusconi était le signe d'un retard intellectuel des Italiens, que l'Italie est un laboratoire et non pas un pays attardé. Donc ils ont eu Berlusconi et longtemps après, les Américains ont Trump. Mais ils ont eu aussi Matteo Renzi, les Italiens. Ils ont eu comme ça un pôle de ralliement de l'ensemble des élites italiennes, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche, qui se sont unies derrière un représentant unique qui était censé les sauver du fiasco ou du danger. Et trois ans plus tard, après Matteo Renzi, on a eu Salvini et le mouvement 5 étoiles. D'ailleurs, on notera à quel point Salvini a mangé le mouvement 5 étoiles en l'espace de 2-2, parce que lui avait une idéologie et lui faisait de la politique. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire et de dire et d'écrire, c'est d'alerter justement les Français sur le fait qu'ils ne sont pas immunisés et qu'on a aujourd'hui un homme qui a prétendu unir aussi, encore une fois, comme en Italie, les élites, à rassembler les gens qui viennent de la gauche et de la droite, et que l'alternative à cet homme, l'alternance, eh bien, ça peut tout à fait être Salvini. Et que donc, il y a une nécessité de prendre au sérieux la crise qu'on traverse. Et jusqu'ici, la réponse politique à cette crise, à mon avis, ne semble pas être le signe d'une prise au sérieux de cette crise. Et donc, il n'y a aucune immunité française. Je me suis fait beaucoup traiter de castor parce que j'avais effectivement appelé à barrer la route à Marine Le Pen, malgré les divergences que j'avais déjà avant même qu'il soit président avec Emmanuel Macron. Mais il me semblait très important qu'on fasse barrage. Mais je crois aussi que faire barrage n'est pas suffisant. À un moment, les castors vont se lasser et les barrages eh bien, ne fonctionneront plus. Et pour éviter cela, à mon avis, il faut regarder avec lucidité les problèmes de nos sociétés, ce qui suppose de proposer quelque chose de plus radical comme transformation que simplement des mesures. Je crois qu'on peut dire quand même que si les États-Unis n'ont pas connu le fascisme, alors que les pays européens étaient ravagés par la tentation fasciste dans les années 30, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu un New Deal, une refonte réelle du contrat social qui permettait à la démocratie américaine de survivre. Et je pense qu'on est dans le même type de situation et qu'il faut interroger en profondeur, en fait, nos comportements. Mais ça va depuis les comportements individuels jusqu'au comportement des élus. Je veux dire, on est dans une librairie. Ce qui est pour moi extrêmement intéressant de noter, c'est que les meilleures ventes de plus en plus dans nos librairies, eh bien, ce sont les traités de développement personnel. C'est-à-dire qu'en gros, le rôle qui était dévolu à la philosophie politique en France a été remplacé par les manuels de développement personnel. Et en gros, si auparavant on se demandait ce qui est le bien ou ce qui est bon pour la cité, aujourd'hui, on demande d'abord à un livre de nous dire ce qui est bon pour soi. Et moi, je pense donc que ce n'est pas simplement les politiques, mais chacun d'entre nous. On a été transformé par des décennies, en fait, de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, mais qui est d'abord un rapport au monde plaçant l'individu au centre de tout. Et en réalité, la République, ou la démocratie, mais la République en France, ça suppose que eh bien, cet individu qui existe, il faut préserver hein, une sphère privée où on a le droit de faire ce qu'on veut et où on peut se prendre soi-même comme horizon, bien que cet individu soit couplé avec un citoyen, mais qui lui, du coup, ne prend plus l'individu comme horizon. Le citoyen prend la collectivité comme horizon. Et le drame actuel, c'est qu'en fait, l'individu a complètement pris le pas sur le citoyen. Et c'est ça qui explique en partie, à mon avis, ce qu'on a appelé la vague populiste.
Vous parlez d'absence de devoir, finalement. Donc je rebondis sur cette histoire où vous dites que finalement Sartre a été remplacé par un coach personnel. Et où vous faites des parallèles vraiment très intéressants. Votre livre est aussi très drôle. Vous faites des parallèles entre...
Contrairement
vous.
À mes blagues. Mais j'avais plus de temps pour les préparer, donc...
Il manque cette question du devoir. C'est-à-dire qu'on est passé à une société de droit, avant tout, de tellement de droits que finalement elle n'en a plus ou elle en a trop, mais il y a l'absence du devoir.
Eh bien, c'est la preuve que mon livre est contre-intuitif pour moi, parce que spontanément, mon logiciel de pensée, c'est évidemment d'être du côté des conquêtes des droits individuels. Moi, il n'y a aucune conquête de droit pour laquelle je ne me battrais pas. Et donc, je suis... clairement là-dessus en opposition frontale avec les discours réactionnaires ou conservateurs qui nous expliquent que la civilisation va s'effondrer si la PMA est votée. Mais par contre, je pense effectivement que ça ne suffit pas, que l'horizon politique ne peut se résumer à des conquêtes de droits individuels ou à des conquêtes de liberté individuelle, qu'à un moment donné, il faut faire peuple. Alors, si on dit cela, ça veut dire qu'il faut accepter l'idée que eh bien, la collectivité puisse exercer une contrainte sur notre individualité. Et c'est pour moi essentiel, et c'est très mal compris à gauche. On est spontanément rétif à l'idée de contrainte et d'autorité. Mais en réalité, on ne peut pas construire une République sans contrainte. Si, honnêtement, si la République avait proposé gentiment aux familles « Est-ce que vous voulez envoyer vos enfants à l'école ?» on n'aurait pas eu l'école républicaine. Donc il y a un moment où il faut accepter de ne plus être que des individus et d'accepter qu'en fait, être citoyen, c'est une forme de violence exercée sur notre individualité. Il faut comprendre, par exemple, quand je disais, une fois, je me suis fait traiter d'antisémite dans une conférence, c'est quand même assez drôle, mais je précise maintenant qu'il faut rien. mais je me suis... Parce que j'avais dit, il n'y a pas en France de citoyens juifs. Et une personne s'est levée en disant, comment pouvez-vous nier l'existence de 600 000 personnes ? Et ce que je voulais dire, c'est que il y a des individus juifs, de confession juive ou d'origine juive, mais le citoyen suppose que l'individu de confession ou d'origine juive meurt à lui-même et s'exprime en tant que citoyen, et que ce citoyen ne peut pas être qualifié comme cela. Et je pense que ça, on l'a perdu. Prenez par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, on ne parle que des droits de l'homme. Et on oublie et du citoyen. Pourtant, les rédacteurs, les révolutionnaires de 1789, maîtrisaient la langue française bien mieux que les politiques ou les intellectuels de notre époque. Donc, ce n'étaient pas des adeptes de la répétition. S'ils ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas pour répéter deux fois le même mot. C'est qu'il y avait une différence, et il y a toujours une différence fondamentale entre les deux. Et que les droits du citoyen peuvent être perçus comme des devoirs pour l'homme. Et le fil rouge, en fait, de ce livre, c'est le discours sur la première décade de Tite-Live de Machiavel. Et la question que se pose Machiavel est une question extrêmement actuelle. C'est comment on maintient un esprit civique dans une cité. Et ce qu'il explique, c'est qu'on le maintient... Alors, ce ne sera pas un très bon slogan de campagne électorale pour un président de la République, un candidat à la présidentielle en France, par ce motto qui est présenté par Machiavel, qui dit « Tenere ricco il pubblico e povero il privato ». Ça veut dire maintenir riche le public et pauvre le privé. Ça ne veut pas dire qu'il entend appauvrir l'ensemble de la population, mais ça veut dire qu'en fait, la cité doit valoriser le public. Or, on assiste à exactement l'inverse. C'est-à-dire que toute la démarche aujourd'hui est de valoriser le privé. On nous explique, quand on a des députés, je ne questionne pas du tout, là je ne rentre pas dans la politique, mais enfin la politique avec un petit P et basse, mais on nous explique, c'est l'argument qui m'intéresse, on nous explique « Ah, enfin, nous avons des députés qui viennent de la vraie vie. » Parce qu'ils sont issus du secteur privé. Comme si le secteur public était la fausse vie. Et on nous explique, quand il y a une réforme, et je ne questionne pas encore une fois la réforme, là, que le but d'une réforme est de faire en sorte que la SNCF soit à l'équilibre. C'est le ministre de la Santé, que les comptes de la SNCF soient à l'équilibre. On peut tout à fait vouloir qu'elle soit plus efficace. Mais le but d'un service public n'est pas d'être à l'équilibre. Ça, c'est le but d'une entreprise privée ou de gagner de l'argent. Le but, c'est la mission que le public lui assigne, c'est-à-dire la réorganisation du territoire. C'est ce qui peut vouloir entraîner une réforme de la SNCF. Mais c'est la justification, moi, qui m'intéresse. C'est les mots qui sont employés. Et les mots qui sont employés partout en Occident signifient une colonisation progressive de l'esprit public par l'esprit privé. Et pour moi, pour prendre une métaphore que j'utilise au début, enfin une image que j'utilise au début du livre, la démocratie libérale, c'est comme le tabouret dans un tableau de Caravage, dans Saint-Mathieu et l'ange, où Saint-Mathieu s'agenouille sur un tabouret pour écrire les évangiles, sous la dictée d'un ange. Et ce tableau a l'air absolument miraculeux de stabilité et d'harmonie. Et en réalité, quand on le regarde, ce tableau, on s'aperçoit qu'au premier plan, il y a un tabouret, le tabouret sur lequel il s'agenouille, menace de tomber. Et donc, toute cette harmonie apparaît immédiatement comme étant instable. Et moi, je pense que la démocratie libérale, c'est ce tabouret. C'est un système qui est aussi en permanence, qui est en balancement permanent, en dialectique permanente, entre deux pôles qui sont dans le nom, le pôle démocratie et le pôle libéral. Et ces deux pôles, l'un met en avant le tout, l'unité, le public, c'est le pôle démocratie, et l'autre met en avant la sphère privée, la multitude, la différence, la multiplicité, le fait que chacun puisse faire ce qu'il entend dans sa sphère. Et ces deux pôles, en fait, quand ils entrent en contradiction dynamique, ils font la force et le progrès de nos sociétés. Mais si l'un des deux pôles s'effondre, alors la société entre en crise. Et depuis 40 ans, le pôle démocratie s'effondre. Et le pôle libéral, de démocratie libérale, triomphe à tel point que le tabouret arrête de bouger et tombe complètement d'un côté. Et donc tout l'enjeu d'une pensée aujourd'hui, c'est comment on fait pour revitaliser ce pôle démocratie. Comment on fait pour revitaliser en chacun de nous l'esprit public? Comment on fait pour ne plus se prendre soi-même comme horizon? Quand on parlait du vide, c'est celui-là le vide. Le vide, c'est une société dans laquelle chacun se prend soi-même comme horizon. Et donc, entre toutes ces monades, qu'est-ce qu'il existe? Le rien. Et finalement, qu'est-ce qui se produit? La solitude qui est ainsi générée devient tellement insupportable pour un nombre croissant de la population qu'émerge l'appel au despotisme. Et moi, je n'invente rien. C'est Tocqueville, déjà, qui expliquait que le meilleur terreau du despotisme, c'est l'éparpillement, c'est la multitude. C'est quand le peuple devient multitude. Et je crains et je pense qu'on soit dans une de ces périodes où, en fait, l'éparpillement est tel que l'appel à l'autorité et à l'autoritarisme devient si fort que la démocratie entre en crise.
Dans votre livre, vous proposez un contrat social que vous présentez comme un horizon et non comme un programme. C'est quoi la différence?
Moi, je pense que la politique, aujourd'hui, souffre d'abord d'absence d'horizon, de perspective. On peut faire des programmes à 5 ans, mais vers où on veut amener la société à 20 ou 25 ans? C'est quel est le sens, en fait, qu'on donne à la politique? Et le problème, c'est qu'en gros, on considère chaque candidat à la présidentielle comme un ministre des Finances. Donc on va lui demander de répondre techniquement sur chacune des mesures qu'il présente pour la première année de son mandat. C'est extrêmement bien, parce que ça empêche les gens de trop mentir, mais c'est pas suffisant, en fait. Enfin, et encore, j'ai vu un air dubitatif, je confirme. En ayant des bonnes fiches, on peut quand même s'en sortir. Mais ça manque d'un horizon à long terme, parce que donner du sens, c'est quand même expliquer en quoi ce catalogue de mesures, qui est un programme de gouvernement, va transformer en profondeur la société. Et par ailleurs, ce que j'essaye de voir, c'est que Il y a une date qui nous est fixée comme horizon, en fait, déjà. Il suffit de lire le rapport du GIEC et la date de 2030. Là, on sait qu'en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Et donc, il faut quand même qu'on pense une transformation de nos sociétés à plus que 5 ans. Il faut qu'on la pense à 12 ans. Et il faut qu'on la mène et qu'elle soit assez radicale en 12 ans pour qu'on ne bascule pas dans l'irréversibilité climatique. Et je pense, c'est pour ça que j'ai, avant le contrat social, je pense que aujourd'hui, l'horizon qui permet de penser la politique à long terme, c'est un horizon tragique, ça s'appelle l'écologie. Ça s'appelle la lutte contre le réchauffement climatique ou la lutte contre la disparition de la biodiversité. Et ça permet d'imposer à la politique de se repenser à plus long terme que le cycle électoral. Et je pense que c'est un effort qu'on doit absolument faire, parce que sinon, en fait, on n'y arrivera pas. Le court-termisme, qui peut sembler être un gage de sérieux, à mon avis, est plutôt un gage de fuite devant un horizon tragique. C'est-à-dire que si on pense à 2022, on ne pense pas à 2030. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque programme pour 2022, eh bien, m'explique en quoi il marche vers 2030, en quoi il fonctionne dans le cadre d'une vision à plus long terme qui est d'empêcher, en gros, que notre monde ne disparaisse. Donc ça me semble une ambition assez nécessaire à avoir. Et donc, à mon avis, un contrat social, c'est plus qu'un programme de gouvernement. C'est moins dans le détail, mais c'est plus qu'un problème de gouvernement, parce que le problème qui se pose à nous, c'est un problème de cadre, c'est un problème de système. C'est pas simplement un problème de telle ou telle réforme ou telle mesure. Et donc, un horizon politique devrait être un projet de changement des cadres. Et ça peut pas être un simple programme de gouvernement. Changer un cadre, ça veut dire changer le cadre même du débat dans lequel on a ensuite des débats entre des différents programmes de gouvernement.
Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un système politique viable dans ce contexte de cette façon-là? Vous prenez l'exemple de Nicolas Hulot qui, finalement, aura été limité. Est-ce que l'engagement politique aujourd'hui a une telle limite que, finalement, c'est comme si on avait les mains ligotées pour pouvoir avancer?
Moi, je pense que la démission de Nicolas Hulot et la manière dont il l'a présentée, la manière dont il a parlé ce matin-là, est un moment de vérité assez rare dans une société. Et il faut donc écouter ce qu'il nous a dit. Et ce qu'il nous a dit, c'est un, qu'il y avait en fait une forme d'impossibilité à continuer une politique de petits pas quand le problème était à ce point systémique. Première chose. La deuxième chose qu'il nous a dite, c'est qu'il y avait une incapacité à trancher aujourd'hui à la tête de l'État, à trancher clairement, et que le « et en même temps » devenait, face au réchauffement climatique, une contradiction. Que donc il fallait une exigence de clarté. Et j'ai noté qu'il avait répété 4 fois le terme « tragique » dans son entretien. Et à mon avis, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui légitime la politique ? Ce qui légitime la politique, c'est qu'il y ait des problèmes dans la société qui ne peuvent pas être résolus d'eux-mêmes. Que le simple jeu des forces sociales ne peut pas résoudre. Ce qui légitime la politique, c'est donc l'existence du tragique. Le tragique, c'est la prise en compte de problèmes qui ne sont pas solvables d'emblée. La vision comique du monde, c'est une vision selon laquelle, en fait, tout problème va s'auto-résoudre. C'est Woody Allen, d'ailleurs, qui dans Melinda et Melinda, dit qu'en gros, la différence entre la tragédie et la comédie, c'est justement le regard qu'on pose sur un problème. On peut raconter la même histoire d'une manière tragique ou d'une manière comique. Si on la raconte d'une manière comique, c'est que finalement, l'histoire, eh bien, tourne autour d'un problème qui n'en est pas un en réalité, puisqu'il s'auto-résout. L'histoire tragique, c'est que ça aboutit à une crise parce que le problème ne se résout pas de lui-même. Et je pense que nos politiques ont réellement évolué dans une atmosphère comique, mais pas seulement eux, nous aussi, en pensant que la société pouvait fonctionner d'elle-même. Ce que le réchauffement climatique pris en compte par Nicolas Hulot dont Nicolas Hulot prend la mesure, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on est face à un problème tragique et que donc, il va falloir trancher. Et que quand on va trancher, évidemment, eh bien, on va heurter des intérêts. On va heurter des intérêts et on va être amené à conduire une politique cohérente de transformation de la société. Et Nicolas Hulot, voyant que cette politique ne pouvait pas être menée, il démissionne. Alors bien sûr, ensuite, tout le monde a cherché à psychologiser le message de Nicolas Hulot. C'est-à-dire qu'en fait, les clowns ont repris possession du message de Nicolas Hulot pour expliquer finalement qu'il n'est pas si grave, ce message, puisque cette personne est fragile. Parce que finalement, si on regarde bien dans ses yeux, eh bien, il ne semble pas très solide, cet homme-là. Mais on a la même attitude quand 15 000 scientifiques publient un texte en une du Monde qui nous terrifie pendant 2 jours avant qu'on passe à autre chose et qu'on le mette à distance, qu'on le déréalise, qu'on le relègue dans l'ordre de nos préoccupations. Et donc, il y a, à mon avis, là, quelque chose qui est de l'ordre du retour du politique dans la parole de Nicolas Hulot, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'une démission, on pourrait croire que c'est une démission du politique. En réalité, c'est un appel au retour du politique, mais au politique dans sa capacité à transformer la société. Et moi, je crois aussi que Nicolas Hulot a dit son problème, c'est qu'il était un homme seul appuyé sur une popularité au sein d'un appareil où les lobbies étaient extrêmement puissants et qu'il lui manquait un mouvement dans la société. C'est ça qu'il a dit. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a une responsabilité collective de chacun d'entre nous à porter justement cette volonté-là de transformation. Et que la politique, c'est pas qu'une affaire d'élection, c'est aussi une affaire de mobilisation continue des citoyens. Si on sait qu'on a cette échéance tragique, alors, à un moment, on doit quand même tous collectivement appuyer ceux qui entendent mener cette transformation. Parce que, encore une fois, toute transformation heurte des intérêts. Et s'il n'y a pas de mouvement dans la société, il a totalement raison, les intérêts sont toujours plus forts que la volonté de transformation. Et donc, c'est pour moi un appel, en fait, à la politique. C'est pas un aveu d'échec, c'est un aveu d'échec qui en fait est un appel au sursaut collectif d'une société qui décide que son avenir en tant que tel est plus important que X ou Y intérêts bien établis.
Est-ce que la société du spectacle de Guy Debord a pris le pas sur la parole des intellectuels? Vous dites que depuis 1970, quand même, beaucoup d'intellectuels ont essayé d'alerter, notamment sur l'écologie, en vain. Est-ce qu'on pourrait imaginer des outils qui relèvent de la société du spectacle pour finalement essayer de faire prendre conscience aux gens de la situation?
Déjà, en fait, oui, la société du spectacle a pris le pas. Et c'était déjà le problème dans l'Athènes de Socrate. Son rapport aux sophistes, c'était déjà une critique de la société du spectacle. Et donc, la société du spectacle, elle vise à rendre le tragique comique pour ne pas susciter l'action politique. C'est ça, le fonctionnement. C'est qu'on déréalise tout, on peut se permettre de rire de tout, on est ironique vis-à-vis de Cassandre. En gros, Cassandre, dans une société du spectacle, passerait pour une hystérique totale, ce qui était déjà le cas d'ailleurs, parce que personne ne l'a cru quand elle parlait à Troyes. Donc la société du spectacle, c'est pas nouveau. Mais il y a des moments, en fait, assez graves dans l'histoire des peuples, où la société du spectacle devient criminelle, parce qu'elle ne permet plus de prendre en compte les problèmes qui sont des menaces immédiates sur nos existences. Et donc tout l'enjeu, c'est de s'emparer des moyens de la société du spectacle, c'est-à-dire des moyens médiatiques, des moyens de communication, des réseaux sociaux qui peuvent tourner soit à la foire à l'ego sur Instagram, moi, regardez comment je mange cette assiette qui a l'air géniale et ma vie ressemble à un conte de fées hollywoodien, soit se transformer en agora. Et donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on utilise ces moyens, ces canaux de la société du spectacle pour revenir à une forme de citoyenneté et d'engagement politique. Et ça, c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué à tenir. Mais c'est pas en se retirant dans sa forêt ou dans sa tour d'ivoire, en disant je me coupe de ces moyens-là, qu'on arrivera à pousser une transformation dans la société. Et donc, à mon avis, c'est de la responsabilité aujourd'hui, c'est d'investir tous ces canaux, tous ces moyens, pour retourner les moyens qu'elle utilise contre cette société du spectacle. Et c'est extrêmement compliqué à faire, parce qu'en fait, on a comme une seconde peau. Chacun d'entre nous, hein, on a comme une seconde peau. On a tellement été habitué, en fait, à notre... individualité, au fait de se prendre soi-même comme horizon, que le passage à la liberté active, participative, c'est la différence entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des modernes, c'est d'abord un droit de retrait dans sa sphère privée, et la liberté des anciens, c'était une liberté de participation sur la sphère publique, à la sphère publique. Et c'est difficile, en fait. C'est compliqué, ça ne correspond pas à nos habitudes. Mais je pense que la prise en compte du danger, si on continue de la même manière, eh bien, est le plus fort moteur pour accomplir en soi cette transformation. Mais ça, encore une fois, c'est un processus qui est à la fois un processus politique où il faut produire un nouveau contrat social, un nouvel horizon politique, et en même temps, c'est un processus aussi où, en chacun de nous, on doit accepter... de mourir en partie à soi-même. C'est le principe même de la philosophie selon Socrate, l'exercice à la mort. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. C'est ce qu'on ne sait plus faire, en fait. Donc il faut qu'on réapprenne, c'est un beau programme politique, hein, qu'on réapprenne collectivement à mourir. Mais pour éviter de mourir réellement, enfin...
Est-ce que les regroupements, finalement, à plus petit niveau, représentent un engagement plus fort que politique? Est-ce qu'il n'y a pas justement un gouffre entre l'action d'un nombre d'associations et de regroupements qui portent différents noms ou différentes appellations et une perspective du G20 qui est quand même un gros point d'interrogation aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, en fait, quand on dit que les gens sont dépolitisés, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de Français qui ont participé à des associations... mais depuis des associations écolo jusqu'à des associations d'aide aux migrants, d'accueil des personnes migrantes, ou des associations de solidarité sociale, ou des associations de transformation du voisinage. Enfin, il n'y a jamais eu autant d'adhérents aux associations. Donc, il n'y a pas une... Et c'est une manière aussi de faire de la politique, ça. Donc, il y a une désaffection vis-à-vis des partis politiques, mais il n'y a pas une désaffection vis-à-vis de la vie publique. Le problème qui se pose dans ce type d'engagement, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est à la fois des formidables laboratoires de liens sociaux, c'est la base à partir de laquelle on doit construire une vision du monde, mais si ça reste à l'échelle locale comme ça, ça n'enrayera pas la course folle de nos sociétés vers l'abîme. Ça préservera peut-être des îlots de résistance, mais le mur, on le prendra quand même. Et donc, ce qu'il faut réinventer, en fait, c'est le passage de cette échelle-là d'engagement à un engagement plus global. Et l'immense problème pour ce passage-là, c'est qu'il y a une crise de la parole globale. C'est-à-dire que, a priori, la parole politique, au sens de nationale ou européenne, a été décrédibilisée. Et donc, il y a une forme de « on fait confiance au maire de son village, on fait confiance à son association locale, mais dès qu'on... on sort de ça pour exprimer une vision globale, on est réticent à croire. » Et donc, c'est à ça qu'il faut répondre. Parce que c'est d'ailleurs ma discussion avec beaucoup d'écologistes qui disent « Mais on va d'abord transformer les comportements individuels. » Et moi, je pense que c'est extrêmement nécessaire. Ça ne marchera pas si on ne fait pas ça. Mais c'est extrêmement insuffisant aussi. C'est-à-dire que l'écologie ne peut qu'être politique. Et... en fin de compte, quand on regarde quand même les données, on peut se rendre compte que eh bien, si simplement Exxon, Total et d'autres grandes compagnies pétrolières remplissent leur cahier des charges, et continuent à explorer, exploiter ce qu'ils ont prévu d'explorer et d'exploiter, bah, vous pouvez faire tous les efforts individuels que vous voulez, on explosera les objectifs des accords de Paris. Et donc, en réalité, il va falloir contraindre ces grands groupes à ne pas respecter leur cahier des charges. Et pour contraindre les grands groupes à ne pas respecter leur cahier des charges, honnêtement, ce que chacun d'entre nous fait en triant ses déchets ou en économisant l'eau ou en faisant attention à son comportement, bien, ne suffira absolument pas. Il faut une intervention d'une main publique. Et donc ça veut dire qu'il faut une intervention politique. Donc ça veut dire que nécessairement, en fait, la prise en compte du danger écologique, eh bien, nécessite la politique. Et le risque, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, en menant des actions, chacun d'entre nous, pas seulement sur la question écologique, hein, aussi sur la question, par exemple, prenez la question des exilés. Souvent, quand on porte une parole publique sur la question des migrants, on dit, mais, et vous en accueillez chez vous ? Et c'est une question légitime, d'ailleurs, parce que je pense que chaque individu peut faire l'effort de solidarité, ou devrait le faire, ou doit le faire s'il peut le faire. Mais c'est pas suffisant non plus. À la fin, on a un État, on a une question publique, on a une question politique. C'est au niveau de la politique qu'on doit gérer l'accueil et qu'on doit inventer l'accueil ou décider de l'accueil. Et donc, il y a une forme comme ça de rétrécissement à chaque fois des questions, alors même que tout l'enjeu d'une république, c'est justement de partir d'engagements de terrain, d'engagements associatifs, d'engagements de solidarité, pour aboutir à une politique publique. Et ça ne marchera pas sans ce passage-là, sans ce changement d'échelle-là. Et ce changement d'échelle, c'est précisément ce qui est raté aujourd'hui. C'est pas que les gens sont tous devenus égoïstes, c'est pas vrai. Ils s'engagent. Mais comment on passe de ces engagements-là à une parole commune à tous ces engagements? Et ça, c'est l'immense défi qui est devant nous. Et on n'a pas, en plus, des masses de temps. Donc,
Ce sera ma dernière question, puisqu'on est pressé par le temps.
Moi, je suis tranquille. Hein.
Vous avez un train, quand même?
Oui, on a, ça va.
Est-ce que, justement, on le voit bien, hein, à travers les élections et à travers donc, ce que vous racontez, beaucoup d'entre nous sont prêts à s'engager. Est-ce qu'il manque une figure à suivre? Et est-ce que vous seriez prêt à vous engager d'une façon ou d'une autre? Oui, allez-y. Quelle est la limite de votre engagement, Raphaël Glucksmann?
Elle n'a aucune limite. Il n'a aucune.
Alors c'est dit.
Non mais, par contre,
il faut. On est bien d'accord.
Je peux me permettre de revenir sur la formulation de votre question.
Oui.
Ne le prenez pas mal. Alors, je pense, je comprends le besoin d'incarnation en politique, mais.
Est-ce que c'est une vraie question?
Je pense sincèrement que il faut aussi qu'on arrive à penser la politique pas seulement sur l'incarnation personnelle, parce que c'est extrêmement nuisible au débat d'idées.
C'est-à-dire, certes, ça c'est vous qui le dites.
Non, mais moi j'y crois hyper sincèrement. C'est-à-dire que je me suis toujours méfié, moi, des leaders charismatiques qui demandent aux gens de les suivre dans une aventure personnelle et qui mettent les initiales de leur prénom et de leur nom sur leur parti politique. Mais même ceux qui ne le mettent pas et qui, par ailleurs, se comportent exactement de la même manière que ceux qui le mettent. Mais donc je pense que c'est pas simplement un problème d'incarnation. Il y a vraiment. Non mais après, je vais vous répondre. Je vous jure, c'est pas une fuite. Hein.
Oui. C'est pas forcément un individu, mais en tout cas.
Oui, un collectif.
Collectif. D'ailleurs, dans votre livre, vous posez chaque chapitre se termine par une question. Donc, on comprend bien que votre préoccupation est moins d'affirmer que de solliciter la collectivité.
Bien sûr. Et je pense que c'est ça l'essentiel en fait. Donc voilà. Et pour répondre à votre question, sans fuir. Évidemment que moi, je peux pas écrire ce livre. Et explorer ces urgences et ensuite me demander sur quoi je vais écrire mon prochain livre. Enfin, je veux dire, ça serait quand même ultra problématique quant à ma stabilité mentale et surtout à mon honnêteté. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que je crois chaque mot qui est dans ce livre. Donc, si je crois à ces mots, Évidemment que ça doit déboucher sur un engagement politique collectif. Et donc, là, avec beaucoup d'autres personnes, avec des militants associatifs, avec des gens qui luttent sur le terrain depuis la lutte contre les boues rouges à Marseille jusqu'à la lutte contre les lobbies à Bruxelles, en passant par la réinvention d'une démocratie de participation à Kingersheim, ou des collectifs de pêcheurs en Bretagne, ou des agriculteurs qui essayent d'inventer des circuits courts et bio, eh bien, nous avons la volonté commune de lancer un mouvement qui soit un débouché politique, en fait, à toutes ces initiatives qui font qu'en réalité, les liens sociaux perdurent encore dans notre pays et qui permettent, en fait, à des causes qui sont déjà portées par les citoyens et les citoyennes, eh bien, de changer d'échelle et d'aboutir à une vision du monde. Et donc, on va lancer demain un mouvement qui s'appelle Place Publique. Bon, le nom est déjà paru, il n'y a aucun scoop total. Un mouvement qui s'appelle Place Publique et qui vise à fédérer ces énergies-là. Ce n'est pas une écurie électorale ou une liste de plus pour les européennes, contrairement à ce qui a été dit. C'est au contraire, c'est l'idée de dire qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui eh bien, de produire cette vision-là, de produire ce changement d'échelle-là, de répondre à 2030 et pas à 2019 ou à 2022. C'est précisément toutes ces rivalités en vue d'élections immédiates, toutes ces rivalités entre structures partisanes. Et donc, il nous faut une maison commune où, en fait, les gens, quel que soit leur parti, et surtout ceux du plus grand parti de France, c'est-à-dire les 100 partis, eh bien, puissent se rassembler et mener des campagnes communes, des campagnes de contre-lobbying, des campagnes autour de causes précises. Et quand tout à l'heure je parlais de crise de la parole politique, moi c'est quelque chose qui m'obsède parce que je pense qu'en fait, une vie sans politique, c'est pas une vie humaine. Je crois sincèrement que la politique est l'horizon de notre existence. Un peu fou comme pensée, mais je crois sincèrement, et que si on ne s'occupe pas de la politique, eh bien, c'est elle qui s'occupera de nous. Et donc, cette crise de la parole politique, elle m'inquiète, elle m'effraie, et on se demandait, comme ça, comment on peut y résoudre cette crise-là, enfin, sortir de cette crise-là, comment on peut redonner du crédit à la parole publique, précisément, d'ailleurs, en sortant de cette idée du leader charismatique qui aurait une parole sur tout. Parce que je pense que la crise de la parole politique, c'est aussi une crise de l'omniscience. C'est-à-dire que vous avez n'importe quel leader politique, même le plus ouvert et sympathique, si vous avez un problème sur l'éducation, sur les migrations, sur la géopolitique asiatique, sur l'écologie, ce sera la même personne qui va venir asséner des vérités sur toutes ces questions. Ben, franchement, moi, je suis hyper impressionné parce que je serais totalement incapable de le faire. Et je pense qu'une des crises, justement, de la parole publique, c'est que c'est impossible de tout savoir sur tout. Et donc, il faut repartir, en fait, de gens qui ont consacré leur énergie, leur temps, leur enthousiasme, leur vie à des causes, et qui donc connaissent parfaitement ces causes-là, et qui, par ailleurs, on peut être sûr que c'est pas à la rencontre avec trois lobbyistes et quatre industriels qui va les faire changer d'avis. Moi, je sais que Claire Nouvian, par exemple, qui lutte depuis 15 ans pour la préservation des océans, eh bien, et qui lutte contre les lobbies à Bruxelles, des lobbies extrêmement puissants, eh bien, je sais qu'elle ne va pas changer d'avis après-demain, même si le président de la République l'invite à déjeuner et lui promet mont et merveille. Et je ne peux pas dire la même chose de d'autres leaders politiques, parce que fondamentalement, leur parole, elle est plus abstraite sur ces questions. Et donc, je pense qu'il faut partir de ces engagements-là pour produire un projet collectif, un projet commun. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors après, aucun d'entre nous n'est politique professionnel ou n'aspire à le devenir, mais on décide collectivement de franchir le pas et d'appeler l'ensemble des gens qui le souhaitent, qui veulent s'engager, mais qui ne trouvent pas encore d'endroit vraiment où s'engager, eh bien, à co-construire ça avec nous, ce mouvement avec nous, parce que on n'a pas encore les solutions, mais par contre, on sait qu'on doit les produire de manière extrêmement urgente. Et à partir, des solutions qui existent. Enfin, quand on voit Bolsonaro, Trump ou Salvini, quelque chose qui me frappe, moi, par rapport à, au hasard, Emmanuel Macron ou même Jean-Luc Mélenchon, c'est la cohérence de leur offre. Ils sont autoritaires, anti-écologiques, anti-droits de l'homme, si on veut, et profondément xénophobes. OK ? C'est cohérent. Face à eux, l'offre est réellement incohérente. Parce qu'il faut se soucier de tel ou tel intérêt, parce qu'il faut se soucier de tel ou tel segment de la population, parce qu'il faut... Bien sûr, c'est normal, on veut être élu, c'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on... Avant de se poser la question d'être élu, c'est qu'on arrive à produire l'offre qui soit réellement cohérente face à celle-ci. Et pour ça, je pense qu'il faut se dégager des contingences des structures partidaires actuelles pour se rassembler, mais tout en restant dans les partis, pour ceux qui y sont, et la produire, cette offre, à partir... d'acteurs de terrain et de porteurs de causes. Et donc, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. C'est pour ça que, sur le leader charismatique, je pense qu'il faut accepter que la solution, elle viendra d'une forme de polyphonie et pas de solo de guitariste choc. Et donc,
c'est vous qui m'avez dit leader charismatique, c'est pas moi.
Oui, non, mais vous avez dit... voilà.
Moi, je vous ai demandé jusqu'où vous seriez prêt à aller.
Ah, mais moi, je suis prêt. Non, mais ce que vous avez dit avant, est-ce que c'était pas un problème d'incarnation? Je pense qu'il y a plus qu'un problème d'incarnation, il y a un problème d'idée.
Oui, tout à fait.
Et moi, jusqu'où je serais prêt à aller? Moi, je serais prêt à aller jusqu'où? Moi, sincèrement, je ne me reposerai jamais tant que je pense qu'en 2030, parce que j'ai le malheur de croire, c'est un défaut d'éducation, quand des scientifiques parlent, franchement, faut les écouter, hein. Ils savent mieux que moi. Et donc, quand on me dit qu'en 2030, on bascule dans l'irréversibilité, bah, tant qu'on n'aura pas engagé ces transformations qui sont nécessaires, eh bien, moi, je pense que je n'ai pas intérêt à me reposer. J'ai des enfants, je n'ai pas envie qui vivent dans une société qui a basculé dans l'irréversibilité. Tant que je pense qu'il y a une menace réelle, et je crois qu'elle est réelle, que la démocratie disparaisse aujourd'hui sur notre continent, j'irai jusqu'au bout. Et tant que je pense que finalement un projet fait partie du cœur de mon identité, qui est le projet européen, tant que je pense que, vu la manière dont il est conduit et géré, il est réellement menacé de délitement, je n'aurai aucune limite dans mon engagement. Et pour vous faire comprendre, il y a un moment, moi, qui m'a réellement traumatisé, en fait. Il y en a plusieurs. Mais c'est le moment de la formation de la coalition populiste en Italie. On avait, d'un côté, cette coalition qui représente, en gros, tout ce que je déteste sur Terre. Enfin, non, il doit y avoir d'autres choses, mais enfin, là, c'était quand même assez massif. Et de l'autre côté, on avait des éditorialistes français ou des députés allemands qui en appelaient aux agences de notation pour empêcher la formation de cette coalition. Et donc je me suis posé une question sérieuse, qui est une question quasi insoluble et assez désespérante, je dois vous le dire, qui est de dire, est-ce que c'est ça l'avenir? Ça va être le choix entre, d'un côté, le produit d'une expression démocratique qui est profondément liberticide, et de l'autre côté, un libéralisme post-démocratique qui en appelle à l'invalidation des élections par des instances non élues. Mais après, je me suis dit, mais c'est pas la première fois qu'on se pose la question. Il y a aussi le cas du référendum suisse sur les minarets. D'un côté, des instances non élues, les juges, qui autorisent la construction des minarets, et de l'autre, le peuple qui décide la prohibition de la construction des minarets. Donc d'un côté, vous avez une démocratie illibérale, pour reprendre le thème d'Orban, et de l'autre, un libéralisme post-démocratique. C'est ça le choix? Mais alors, dans ce cas-là, moi, je suis l'âne de Buridan. Je me transforme du castor vers l'âne. Et c'est une grande figure de la philosophie, l'âne de Buridan. Il a face à lui à boire et à manger. Et il ne sait pas ce qu'il doit faire en premier entre boire et manger. Et finalement, il meurt de faim et de soif. Donc, si on pouvait éviter de mourir de faim et de soif et créer une dynamique qui nous permettent de ne pas nous limiter à ce non-choix-là ou à ce choix terrible ou cornélien, eh bien, je pense qu'on ferait acte de salubrité pour la société et aussi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça va finir par être vraiment oppressant d'être placé dans cette situation-là. Je ne veux pas avoir le choix, moi, entre technocrates post-démocrates et des gens élus démocratiquement dont le but est d'abolir les libertés. Et donc, il y a un moment où, là, il faut s'engager face à ça et essayer de montrer qu'il y a une autre voie que ces deux choix-là.
C'est intéressant, la réponse que vous donnez est intéressante avec cet exemple de l'Europe, où finalement Thomas Porcher est avec vous, hein, dans Place Publique, mm-hmm. Je crois, il a sorti un livre aussi, donc un certain engagement écrit, détaillé sur ses réflexions. Et donc on pourrait imaginer en tout cas un collectif qui ne soit pas une figure à suivre, mais un regroupement de figures à suivre. C'est très européen comme idée. Et finalement, pardon, ça revient quand même au démarrage de cette rencontre où vous parliez de solitude et qui est aussi que parmi les gens qui vous écoutent, qui vous suivent et qui vous lisent, beaucoup aimeraient, mais se sentent suffisamment seuls et donc ont besoin quand même d'avoir, comme vous le dites, et c'est quand même la raison pour laquelle vous le faites, un mouvement à suivre, un groupe de gens, une figure, peu importe en fait, en tout cas un élan.
Oui, vraiment, je pense que, et c'est la réflexion qu'on s'est tous fait, en fait. Il y a un moment où, même si ça peut être confortable, des fois, d'être seul, libre de ses propos, libre de ses pensées, libre de son temps, il y a un moment où, en fait, face au risque, cette solitude, elle devient trop pesante. Et on a un besoin vital d'engagement collectif. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et en plus, ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est dans ce mouvement, c'est qu'en fait, quand on regarde, on ne s'est jamais posé les questions. Et on a fait, je vous révèle, je suis vraiment un piètre politique. Je révèle les trucs qu'on est censé garder cachés, mais bon, c'est pas grave. On a fait une assemblée générale et on ne s'était jamais demandé pour qui on votait, en fait, pour qui on avait voté. Bon, il y en avait, on savait, puisque publiquement il avait dit, moi par exemple, gros succès. Mais, ouais, bah, trust my judgment. Mais la plupart, ils n'ont pas dit pour qui ils votaient. Et donc on s'était jamais posé la question. Puis au bout d'un moment, on fait une assemblée générale qui adopte des statuts d'un mouvement. Donc là, on est lancé là. Enfin, on se dit, voilà, c'est mercredi, ok. Donc, et on se pose la question. Et en fait, on avait vraiment voté tous pour des candidats différents. Enfin, pas tous pour des candidats différents, parce qu'on avait pas tant que ça des candidats, mais on avait voté de manière très éclatée. Et certains avaient voté pour Emmanuel Macron, d'autres avaient voté pour Benoît Hamon, d'autres avaient voté pour Mélenchon. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient voté Fillon ou Le Pen, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je ne crois pas à l'incarnation de tout le peuple dans un mouvement. Hein. Je pense qu'il y a des clivages quand même qui existent. Pour dire... Et en fait, on ne s'était pas posé la question, parce que finalement, on partageait en fait une véritable communauté de vision du monde. Et c'est quand même assez étonnant. Comment est-ce qu'on fait pour partager une communauté de vision du monde et avoir à ce point éclaté notre choix politique ? Est-ce que c'est pas parce que finalement il y avait aucune des structures qui remplissait notre vision du monde ? Et que certains avaient voté pour Emmanuel Macron parce qu'ils voulaient éviter Fillon-Le Pen, ou même parce que pour eux la défense de l'idéal européen était, dans ce moment de souverainisme, était plus importante que la défense des solidarités sociales, par exemple. Et que les autres avaient voté Jean-Luc Mélenchon parce que pour eux, la prise en compte du danger écologique et la dénonciation des ravages du capitalisme débridé et la préservation de solidarité sociale étaient plus importantes que leur idéal cosmopolite ou européen, et que donc ils avaient passé outre leur répulsion face à certaines rhétoriques de Jean-Luc Mélenchon, que d'autres avaient choisi tout en sachant qu'ils allaient perdre. Et qu'en fait, on se retrouvait et qu'il fallait dépasser en fait ces quatre partisans, et puis que peut-être on votera tous pour des gens différents, encore une fois, mais qu'on éprouvait tous le même besoin, en fait, la même urgence et le même besoin d'essayer de prendre notre bâton de pèlerin, de créer une maison qui soit ouverte à tous et surtout de la créer autour de porteurs de cause qui vont recrédibiliser la parole politique. Et quand on qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement, c'est la question qu'il doit y avoir. C'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre en Indre-et-Loire des femmes qui luttent contre la fermeture d'une maternité et à Lyon, un entrepreneur qui essaye de mettre en réseau différents acteurs sociaux européens. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un activiste écologique de Marseille et un élu de terrain qui essaye de réinventer la démocratie en Alsace? Et finalement, ce qu'il y a de commun, bah c'est comme ça qu'on a trouvé le nom du mouvement, hein, c'est une forme de volonté de rétablir la notion de place publique. Une volonté de face à la privatisation du monde ou face aux passions autoritaires, de rétablir la figure du citoyen. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, je ne sais pas si on va réussir, évidemment. Mais en tout cas, je pense que chacun d'entre nous, et puis tous les gens qui nous rejoignent, ça doit être la même chose. On s'en voudrait trop de ne pas avoir au moins essayé, quoi. Parce que là, l'enjeu, c'est pas simplement de changer le monde. C'est-à-dire que moi, je crois pas, en fait, aux mouvements qui veulent changer le monde. Moi je pense que l'enjeu, c'est d'empêcher que le monde ne se défasse complètement. Et ça, c'est un moteur d'engagement beaucoup plus puissant, en fait. Parce que si c'était juste la continuation du même, je sais pas, moi, si j'aurais franchi le cap de créer une structure collective. Mais la continuation du même, c'est la certitude qu'on va réellement imploser et réellement tout perdre. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, où des gens qui n'envisageaient pas de franchir le pas, franchissent le pas.
Merci Raphaël Doucement.
Merci à vous.